impératifs simples dedans peuvent très bien être en compétition des uns des autres, derrière les contradictions, et les résultats de meilleures intentions peuvent aboutir à des effets très mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons la complexité qui apparaît dans la problématique d'éthique. Et puis, par ailleurs, si nous définissons l'humain à partir de ces trois notions inséparables et se produisant l'une l'autre, qui est l'individu, la société, l'espèce, nous nous rendons compte qu'il y a trois branches de l'éthique qui sont vraiment complémentaires, qui éventuellement peuvent se trouver antagonistes, et aussi qui souvent se confondent ou s'unifient, comme par exemple dans l'éthique de la compréhension dont je vais parler ce matin même. Alors, j'ai dit que l'éthique, partout où la civilisation a produit un certain individualisme, une certaine autonomie de l'individu, ne serait-ce que par rapport à la société, voire souvent un éloignement par rapport à la religion révélée, tout ceci nous met en face d'un choix, d'une décision, et je dirais que le choix et la décision, ce qui nous concerne, c'est disons d'assumer le destin humain, d'accepter d'assumer le destin humain qui est à la fois individuel, biologique, social et historique. Et si vous voulez, bon, ce livre n'est pas traduit en espagnol, mais mon dernier ouvrage de la méthode, l'identité humaine, justement, examine les différences d'identité humaine qui sont liées pour former notre identité, c'est-à-dire l'identité individuelle, l'identité sociale, l'identité historique et cette identité, l'identité planétaire qui s'affirme de plus en plus et qui se confond de plus en plus avec notre identité, je dirais, bio-anthropologique, c'est-à-dire notre condition d'être humain. Et disons, nous sommes voués inséparablement, et je répète parfois contradictoirement, à cette trinité société, individu, espèce. L'auto-éthique, je dirais, peut être considérée comme l'aspect individuel de l'anthropoéthique, l'éthique en général. Alors, cela comporte tout d'abord un travail conscient pour soit élire, soit reconnaître ses devoirs et ses finalités. C'est une autre façon de vous dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans un monde où il y a une certaine autonomie individuelle, il y a ce que Pierre Legendre appelle le supermarché des valeurs. C'est-à-dire, nous allons dans ce supermarché et nous choisissons les valeurs à laquelle nous décidons de nous vouer. Alors, ça c'est le premier travail conscient, c'est reconnaître ses finalités. Et si on se situe d'un point de vue, je dirais, de l'anthropologie, d'anthropologie complexe, évidemment, on arrive à cette triple finalité, à ces trois finalités distinctes et inséparables. Bon, d'autre part, l'auto-éthique, alors là, comprend un examen conscient et ininterrompu de soi sur soi-même. Là encore, je crois que c'est une de ces exigences qui déjà se trouve formulée, disons, dans la conception de l'être humain, dans son problème de recherche de la pertinence dans sa propre connaissance, c'est cette lutte contre le mensonge à soi-même, qui est quelque chose non pas d'exceptionnel, mais je dirais de quasi permanent. Self-deception, tu vois. Self-deception. Mensonge dont nous ne sommes pas conscients, mais dont une partie de nous-mêmes connaît ce mensonge, mais ne sont pas conscients, qui se manifeste de différentes façons, en nous occultant certaines choses à nous-mêmes, en mettant en relief d'autres choses, à travers une mémoire sélective, à travers ou par le moyen, plutôt en obéissant plutôt à un narcissisme égocentrique, et cette tendance permanente à l'auto-justification. Ce sont ça, si vous voulez, ce sont des toxines, des éléments d'intoxication qui, en quelque sorte, peuvent pervertir l'exercice personnel de l'éthique. Et puis, il n'y a pas seulement l'examen conscient et permanent de soi sur soi, mais il y a l'examen conscient des contraintes extérieures de l'action, c'est-à-dire ce que j'appelais l'écologie de l'action. C'est-à-dire que l'écologie d'action, cette idée d'une écologie d'action, cette idée qui nous appelle à la vigilance sur nos actions, sur ce qui leur arrive, doit être intégrée très profondément par nos esprits, par nos consciences. Et on peut dire que dans ce sens-là, l'auto-éthique, c'est une auto-éco-éthique, c'est-à-dire qui doit se référer toujours à ce qui nous entoure, à ce qui nous environne. Proche, notre milieu, notre société, etc. Bon. Alors, cela étant dit, je crois que est l'élément fondamental à ce qui concerne la relation avec autrui, et autrui non pas seulement personne que vous rencontrez, mais aussi l'ensemble des autrui. Donc, c'est l'éthique de la compréhension. Et alors, avant d'arriver à cette éthique de la compréhension, il faut dire qu'elle a besoin elle-même d'intégrer, plutôt que nos esprits ont besoin d'intégrer, cette conscience anthropologique qui montre qu'on est à la fois sapiens et des masses, qu'on est des êtres de la pratique et de la mythologie, qu'on est des êtres de l'intérêt et du jeu, qu'on est des êtres à potentialité forte, égocentrique, mais aussi à potentialité altruiste, que nous avons une potentialité d'innombrable personnalité en nous-mêmes, et il est évident que c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que le caractère fondamental de l'éthique de la compréhension est anti-réducteur. Si nous réduisons pas quelqu'un à l'une de ses personnalités, et peut-être parfois, non pas sa personnalité, mais je dirais son personnage, car ce qui est intéressant, c'est que il y a le personnage, c'est-à-dire, est une prise de rôle, hein, comme il est, selon l'expression de la sociologie américaine, le role-taking, le role-playing font partie des comportements sociaux traditionnelle. Et effectivement, la tendance facile, c'est de réduire autrui au rôle qu'il assume et qui souvent masque. Alors, donc, ne pas réduire, savoir qu'il y a d'innombrables potentialités en autrui, c'est pas seulement des potentialités, mais qui a en lui une multiplicité de traits. Et donc, il y a un véritable, c'est un prolongement de la connaissance complexe, de la conscience complexe, que de l'intégration du pas en soi, de cette conscience pour éviter la réduction péjorative d'autrui à l'un de ses traits. Et bon, c'est ici que je crois que l'apport anthropologique de Shakespeare, de Dostoïevski, est très important. D'ailleurs, c'est Harold Bloom qui a dit que Shakespeare est le plus grand anthropologue de l'histoire de l'humanité. Parce qu'effectivement, il nous montre des personnages complexes, non réductibles. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la situation théâtrale, c'est-à-dire du spectateur du théâtre, nous permet de percevoir la complexité humaine que nous ne percevons pas dans la vie quotidienne. Et là, on peut prendre un exemple encore plus commun, encore plus courant, c'est la situation du spectateur cinématographique. Et ici, il faut penser que, plutôt, il faut se dépendre de cette conception réductrice du spectateur cinématographique qui est la conception dominante. C'est-à-dire, effectivement, on est dans une salle obscure, on est donc dans un état qui n'est pas le sommeil, mais qui n'est pas une veille véritable. On est dans un état intermédiaire, avec certains caractères, je dirais, pré-hypnotiques. Et là-dessus, on est dans un état d'aliénation hors de soi-même, parce que notre propre substance psychologique, elle s'est projetée sur les personnages qui vivent sur l'écran, et dans la mesure où il y a des personnages sympathiques, nous les aimons, nous voulons par procuration leurs amours, leurs aventures, qui sont des personnages sympathiques, projetons sur eux notre mépris. Alors, cette conception est tout à fait vraie. Et ce qu'on oublie dans cette vision du spectacle cinématographique, c'est que cet état de projection, dit de projection, pas seulement de projection de lumière, de jeu de lumière, ça fait de projection de soi et d'identification. Comme dans mon livre Le cinéma ou l'imaginaire, j'ai indiqué que dans cette relation du spectateur, personnage de film, il y a une boucle. Il y a une boucle, c'est-à-dire qu'il se projette, mais en même temps, dans cette projection, il y a l'identification, c'est-à-dire que les personnages reviennent sur nous, on s'identifie à eux. Et cette boucle permanente. Et dans cette boucle permanente, apparaît un phénomène qui est très atrophié dans la vie quotidienne, mais qui devient très important. C'est la compréhension, justement. C'est-à-dire, quand nous voyons Marlon Brando ou Al Pacino qui incarne le rôle du parrain, le parrain, père, fils, nous voyons des personnages qui sont incontestablement des criminels, des chefs de mafia, capables de triomphalisme, de la grande cruauté, mais nous voyons des sentiments, ils sont des pères, ils ont des sentiments amoureux, ils ont des sentiments d'amitié, ils ont des loyautés, bon, et nous voyons des êtres complexes. Bien entendu, et c'est là du cinéma, et j'y reviendrai tout à l'heure, autant nous devenons compréhensifs pour les personnages dont nous apparaissons de citer, autant nous allons devenir nous fermer aux personnages que le film va nous désigner comme étant les mauvais, les méchants, ceux qui commettent des crimes. Et à ce moment-là, nous devenons totalement incompréhensifs, nous voulons les punir, évidemment, nous les haïssons. Ces personnages négatifs ne sont pas complexifiés, ils sont au contraire réduits. Alors que les personnages importants sont complexifiés. Donc, justement, ce qui apparaît dans la situation du spectateur de cinéma, c'est exactement ce qu'avait demandé Hegel, que j'ai cité, je crois, déjà au précédent, ici même. Hegel, comme il disait, quand vous traitez de criminel quelqu'un qui, dans sa vie, a commis un crime, vous réduisez tous les autres aspects de sa personnalité, vous éliminez tous les autres aspects de la personnalité en réduisant ce personnage à un crime qu'il a commis. Bon. Et c'est justement ce que le cinéma nous empêche de faire quand nous voyons, effectivement, ces gangsters, ces mafieux, ce sont les personnages principaux. Et cette compréhension que nous avons aujourd'hui, y compris pour le vagabond, détourneront, n'est-ce pas, cette compréhension s'évanouit dans la vie quotidienne. Donc, voilà, c'est l'effet de l'art, c'est l'effet du cinéma, c'est l'effet de l'empathie, c'est-à-dire la compréhension nécessite toujours un mouvement d'empathie, ou disons mieux, de sympathie. Hein. La compréhension ne peut pas se passer de sympathie. Alors, pourquoi la compréhension, je la mets au premier rang, de l'auto-éthique et plus largement de toutes les formes de l'éthique, c'est parce que ce qui est en jeu, c'est l'amélioration des relations entre humains, relations qui sont très mauvaises. C'est pas seulement les relations entre les peuples, les nations, mais c'est aussi les relations avec nos proches, nos familiers, les membres de notre famille, ceux que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Donc ça touche aussi bien à la proximité que, je dirais, à la limite, au XXe siècle, de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre ces différents éléments, ces différentes portions d'humanité, qui ont des marges différentes des nôtres, des cultures des nôtres, des rites différents des nôtres, des mentalités différentes des nôtres, des structures intellectuelles différentes des nôtres, et c'est évidemment un effort gigantesque, mais à la fin, qui apparaît comme absolument vital. Parce que comment peut-on rêver, souhaiter une amélioration en humanité, s'il n'y a pas une amélioration de la compréhension, de l'éducation pour la paix, mais l'éducation pour la paix, c'est pas une éducation qui consiste à dire de pas expliquer aux gens que la paix est bien meilleure que la guerre. Je pense que tout le monde le fait à le comprendre, c'est pas ça qui crée l'inhibition. L'inhibition, dans le fond, ne peut venir qu'au acte. La haine, ce sentiment de haine et de mépris qui est lui, et le terrain qui sont de toutes les hostilités de toutes les guerres, ne peut venir que de la compréhension. Autrement dit, l'éducation, on la fait passe par l'éducation à la compréhension. Et dans le projet que j'ai fait dans ce livre, qui est parti d'une demande de l'UNESCO sur les problèmes de l'éducation, j'ai voulu indiquer les sept problèmes, les sept trous noirs, les sept manques fondamentaux dans tous nos systèmes d'éducation qui concernent des problèmes eux-mêmes d'importance capitale. Il y a l'éducation à la compréhension, de même que l'éducation à la reconnaissance, à la connaissance de l'identité humaine. Et les deux, hein, je viens de le dire, vont absolument ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la compréhension ne peut partir que d'esprits déjà autonomes, c'est-à-dire à partir d'un certain degré d'individualisation et d'autonomie de l'esprit, mais elle est justement menacée par l'individualisme lui-même. Alors, pourquoi la compréhension ne peut partir qu'à partir d'une certaine individualisation d'autonomie de l'esprit, qui elle-même suppose une certaine réflexivité? Parce que, justement, conscience autonome réussit à se détacher relativement de ce que j'ai appelé l'imprinting, c'est-à-dire l'empreinte culturelle du porte que l'on reçoit dans l'enfance et qui vous oblige à penser de telle façon. Elle vous met, vous crée une distance par rapport aux idées reçues, aux idées évidentes dans votre société, mais donc vous pouvez faire les critiques. Elle vous permet de considérer que des tabous, des interdits absolus, en amène une justification valable. Elle vous permet, justement, d'intégrer ce minimum anthropologique, ce minimum de connaissance de la complexité de l'être humain. Et alors, et j'y reviendrai, la compréhension peut d'abord comprendre tous les facteurs de la compréhension qui existent, auxquels nous sommes soumis. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours un déséquilibre fondamental. Par exemple, on a l'enquête de Salman Rushdie. Salman Rushdie, vous savez, c'est l'écrivain islamo-indien qui a écrit les versets sataniques, ce roman, considéré comme sacrilège par les intégristes musulmans qui, même en Iran, ont lancé une fatwa, c'est-à-dire une instruction disant que cet individu doit être tué. Autrement dit, Rushdie, lui, peut comprendre ce qui va se passer dans la mentalité du sectaire qui va chercher à le tuer. Il va comprendre que le sectaire est persuadé qu'il agit pour Dieu, pour la vérité, pour la justice. Il est persuadé qu'il fait un acte absolument méritoire. Bon, Rushdie sait que c'est un acte absolument imbécile, et quoi qu'il y a, mais il comprend l'autre, il est incapable de comprendre. Et l'autre, son assassin potentiel, est incapable de comprendre qui le comprend. Donc, et la compréhension, c'est une chose extrêmement difficile, mais elle est capable, elle est possible dans certaines conditions. Mais voilà qu'elle est possible dans certaines conditions, elle devient vitale pour nous, pour nos relations avec autrui, et même peut-être pour toute l'humanité. Alors j'ai dit qu'elle ne peut partir que de l'individu, donc d'un certain degré d'individualisme. Et en même temps, elle est menacée par cet individualisme même, parce que celui-ci favorise, et parfois même peut exacerber l'égocentrisme, lequel produit des incompréhensions nouvelles. Par exemple, dans les familles, par exemple. Alors, exemple, prenons le cas d'une famille qui fut traditionnelle, c'est-à-dire celle de mon père, était un des 8 enfants. Il voulait devenir médecin, c'était son rêve d'être un médecin. Et son père lui a fait comprendre qu'il n'avait pas, ça ne valait pas la peine qu'il dépense de l'argent pendant plusieurs années, pendant plus de père, n'est-ce pas, comme ça, pour faire ses études en médecine, et qu'il fallait plutôt que mon père, Vidal, devienne commerçant plutôt. Père a accepté le verdict de son père, sans ressentiment, sans rancune. Et pourquoi ? Parce qu'il respectait l'autorité de son père. C'est-à-dire, il ne la comprenait pas dans le sens compréhensif. Par contre, il voyait l'argument. Et surtout, il était dans une structure de respect. Par contre, moi, personnellement, Quand j'avais 14 ans, je voulais faire un voyage en Grèce pendant mes vacances d'été. Je vais partir avec un camarade. Il faut dire que c'était les années 1936, c'était encore le tourisme organisé. Non, pas, c'était pas des choses très dangereuses. On s'était inscrit pour partir comme mousse, pas faire jeune matelot dans un bateau qui s'appelait le Théophile Gautier, qui était en Grèce. On allait se débrouiller, c'était une perspective qui m'enchantait littéralement. Et mon père, alors homme méditerranéen s'il en est, au début m'a dit oui. Et puis, peu de temps avant le départ, il m'a dit oui. Bon, je ne sais pas si. Il dit, si tu veux tuer ton père, pars en Grèce. Bon. Et là-dessus, en homme méditerranéen très comédien, il a faim, enfin, il a poussé des gémissements épouvantables, en feignant une pseudo-agonie. Et évidemment, tout en sachant que c'était une comédie, mais j'ai cédé, je ne suis pas parti. Mais j'ai voué à mon père un ressentiment toute ma vie de votre vie. Empêché d'ailleurs. Bon, et c'est-à-dire que ce ressentiment a été une barrière à propre compréhension de sa personne, qui est arrivée très tard. Donc, si vous voulez, la mentalité individualiste, c'est ça qui, dans le fond, provoque toutes ces dissensions au sein des familles, entre enfants par rapport aux parents, parents. Frères, sœurs, les époux qui se séparent. C'est-à-dire que quand on vit dans une structure qui semblait inamovible, comme par exemple quand le mariage était une institution qui ne pouvait pas être brisée, car même s'il y avait des sentiments, même s'il y avait des difficultés psychologiques, finalement le couple s'installait dans ces situations. Et puis vous savez aussi que souvent des mariages organisés en des barrières, c'est-à-dire mettant en rapport à un jeune homme, une jeune femme, sans qu'il n'y ait aucun amour préalable, finalement provoquer des unions durables où chacun finissait par accepter l'autre, alors que dans nos couples modernes, très rapidement arrivent non seulement des dissensions, mais des incompréhensions, c'est-à-dire des circuits infernaux, où sur l'autre on rejoint toute la faute, toute l'erreur, on se justifie. Donc, voilà, ça, c'est ces exemples. Je veux dire qu'il y a un progrès de l'incompréhension, je dirais proximité, enfin la proximité, en même temps que nous faisons quelques timides progrès dans la compréhension des mœurs des populations étrangères, d'abord parce que au cours des voyages, on apprend à savoir que tel rite, c'est tel rite qui nous semble ridicule à nous, est admis par les autres, par quoi. Mais évidemment, ces progrès d'incompréhension sont très superficiels, ce n'est pas une compréhension profonde. J'ajoute que pour ce problème, pour arriver au caractère maintenant non plus strictement psychologique de la compréhension, je dirais qu'on arrive à un problème plus profondément anthropologique. Si vraiment la compréhension, comme je dis, nécessite un minimum d'empathie, de sympathie, c'est-à-dire de relations affectives, d'ouverture affective sur autrui, elle devient source de compassion. Alors, compassion, pour voir le mot, c'est passion, c'est souffrir ensemble, passion, pâtir, atterrer, souffrons avec. C'est-à-dire, nous sommes capables de comprendre la peine de la souffrance d'autrui. Et en même temps que la compréhension est source de compassion, enfin, la compassion est source de compréhension. Nous sommes là encore dans ces relations en boucle. Et du reste, c'est aussi un des traits très important de la compassion a été bien dégagé par ce prince indien qui s'appelait Siddhartha Shakyamuni, qu'on a appelé ensuite le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé, parce que sa grande découverte, une de ses grandes découvertes, sa grande vérité, c'était l'universalité de la souffrance. De la souffrance humaine, mais la souffrance aussi animale, de la souffrance de vie. Et donc, c'est pour essayer d'échapper au cycle infernal de la souffrance, puisque dans la conception mythologique dans laquelle est née Siddhartha Shakyamuni, c'est la grande conception de la métempsychose indienne, c'est-à-dire on meurt, on renaît, et on renaît, et on renaît, on est échappé à ce cycle-là. Mais ce que je crois, ce qu'il faut retenir de cette évidence, disons, du Bouddha, c'est, je dirais, moi je dirais d'une autre façon, retenir le caractère de la tragédie universelle, c'est-à-dire le destin de chacun, de chaque être humain, si on le juge extrêmement mesquin, si on le juge extrêmement médiocre, si on le juge quelconque, mais ce destin le plus médiocre est lui-même une tragédie qui commence à la naissance, qui se termine à la mort, qui est l'événement terrible, bien entendu, parsemé de joie, de bonheur, parfois, pas toujours. Et là aussi, la conscience de la tragédie incluse dans le destin humain doit contribuer à la compréhension. Alors comprendre, c'est comprendre, c'est aussi comprendre l'incompréhension. Je le dirai, je regarderai. Et alors, voyons un peu ce phénomène de clôture terrible à autrui qui est la compréhension. Cette clôture affective qui se manifeste par la haine, par le mépris, non, qui est clairement sur les antinomies de la compréhension. Il y a des témoignages qui m'ont intéressé. C'est ceux de personnes qui ont vécu dans une clôture terrifiante, secrétant de la haine, de la violence, de la terreur, et puis qui en sont sortis. C'est un témoignage très intéressant d'abord qui montre qu'on peut sortir. Alors, il y a Klein qui faisait partie de cette fameuse bande à Baden. Ceux qui ne savent pas, il y a eu à un moment donné, dans les années 60, un groupe jeune allemand, des policiers, des classes bourgeoises, etc., qui, pour créer une conscience révolutionnaire dans le peuple allemand, ont fait des actes, disons, de terrorisme, des attentats contre des banquiers, contre des hommes politiques, enfin bon, c'est-à-dire. De même, en Italie, il y a eu à peu près à la même époque les brigades rouges, notamment l'enlèvement d'Aldo Moro, cet homme politique italien qui a été mis à mort. Alors, ce qui est de très intéressant dans les récits de ceux qui ont vécu ceci, c'est évidemment, il décrit très bien le cycle de l'auto-justification permanente d'un monde en vase clos, d'un monde qui ne communique pas effectivement avec le reste du monde. On communique effectivement avec ses propres frères. Encore qu'on est prêt à les liquider physiquement si on se rend compte qu'ils sont dangereux, qu'ils veulent des traîtres, mais enfin, c'est dans ce monde clos. Et pourtant, ceux qui vivent dans son univers sont capables de se retransformer, de redevenir un peu comme les autres, si j'ose dire, dès qu'ils en sortent. Bon, il y a eu le cas en Italie, ce qu'on appelle des repentis. Alors, repentis, c'est une notion juridique, mais aussi une notion psychologique, parce que, bon, se repentir pouvait se traduire par la réduction de la peine de prison, pour ceux qui étaient arrêtés. Mais il y a aussi des repentirs psychologiques. Et d'ailleurs, il y a un cas intéressant, d'ailleurs, que j'ai cité dans mon livre Des démons, qui m'a frappé, c'est que la fille de l'homme politique Aldo Moro, qui a été tué par ce groupe des Brigades Rouges, est allée voir les instigateurs de cet assassinat en prison. Oui, pourquoi peut-être fait ça? Et simplement sa recherche, sa quête, sa demande a précipité, a catalysé le repentir de ce qui s'est meurtrier. L'histoire de Klein, elle est assez intéressante parce que Klein était entré dans ce groupe parce que deux raisons d'avis, je vais terminer. Il était persuadé que son père avait été un SS et que sa mère avait été juive. Alors d'un côté, il se sentait coupable de ce que faisait son père, d'un autre côté, il sentait que sa mère était partie des victimes. Enfin bref, aussi des motivations qui l'entraînaient dans ce groupe. Il a participé d'ailleurs à l'attaque à Vienne, pas de la réunion de l'OPEP, donc des représentants des pétroliers, et puis, l'ouverture, la première petite ouverture, c'est quand son groupe l'a dit, on va faire sauter une synagogue à Berlin. Il s'est dit, mais c'est curieux, il dit, mais quelle est la portée révolutionnaire de l'acte de faire sauter une synagogue? Il a commencé à douter. Et puis il a été dans des camps d'entraînement, en Libye, tout ça. Donc le doute s'est inscrit. Et puis jusqu'à ce que le doute, le travail du doute a brisé, c'est ses structures mentales, et il a réussi à s'enfuir. C'est-à-dire c'était très risqué de s'enfuir, parce que d'un côté, il était pourchassé par la justice allemande pour avoir participé à ces actes, sur le plan du droit pénal. Et d'autre part, il était pourchassé par ses anciens camarades parce qu'il était devenu un traître. Il avait pu planquer en France. Et ce qu'il y a aussi de curieux, c'est comme anecdotique ce que je vous dis, ça n'a plus rien à voir avec le fond du problème. Enfin, c'est dérisoire. Il a appris, finalement, que son père n'avait pas été un SS. Et on sait que sa mère n'était pas juive, c'est-à-dire que tout ce qui avait été à la base de son engagement, on trouvait. Mais, enfin, toujours est-il que cette dernière aventure, c'est que finalement, il a décidé de se rendre à la justice allemande, après plusieurs années d'exil caché, et qu'il est en prison. Enfin, voilà donc ce qui est intéressant, c'est la possibilité de sortir de la clôture. Et c'est pour ça que je crois que ici, l'éthique de la compréhension doit se poursuivre par une éthique, je dirais, de la magnanimité et du pardon qui peuvent aider justement à sortir de la vie. Alors, cette éthique du pardon, c'est aussi une rupture avec l'intérieur de soi-même. Bon, hier, je vous ai dit que la vraie tolérance, c'est une souffrance. Parce que on doit tolérer ce qui, quand même, subjectivement, on peut être intolérable. Les idées qui nous semblent mignonnes. Bon. Eh bien, le renoncer au bâtiment et à la vendetta, c'est renoncer à quelque chose qui est inscrit très profondément en nous-mêmes, car je vous citais le cinéma, bon, écoutez, quand nous voyons le comte de Monte Cristo, ou quand nous lisons le roman de Clarisson Dumas, tout notre être participe à la recherche de la vengeance, même au bout de plusieurs années, la vengeance pour que soient punis tous les salauds, disons, n'est-ce pas, nous employons tous ceux qui ont participé à cet ignoble complot qui a. Mais en prison, le reste séparé de sa fiancée, etc. Et nous jouissons à chaque fois qu'un de ces criminels est châtié. Et il est châtié pas par la justice pénale officielle, il est châtié par l'acte de vengeance. C'est ce que nous ressentons, dans le fond. Par contre, le western, dans le fond, ressuscite en cet univers qui est profondément le nôtre, qui est l'univers de l'Italie et l'univers de la vengeance. Et donc, faire un énorme effort pour surmonter une langue que nous ne sommes pas capables d'effacer en nous, l'Italie et la vengeance, nous pouvons le surmonter. Dans l'histoire du droit, ce n'est qu'au XVIIIe siècle, que dans une des régions les plus cultivées de l'Europe, qui était la Toscane, sous le règne d'un archevêque extrêmement civilisé et libéral. C'est donc dans cette Toscane que le juriste Beccaria a énoncé le principe que la prison n'est pas faite pour punir. Elle est faite pour protéger la société, une récidive de l'acte criminel. Autrement dit, il a voulu faire la disjonction entre l'idée de punition et l'idée donc, de prison. Mais en nous, bien entendu, c'est pour ça que je crois que le refus de la vengeance, et que surtout que la vengeance prend la forme de la punition, et nous voyons plus que de plus en plus, le punitionnisme est présent dans nos sociétés. Du reste, on peut très bien le comprendre en fonction de ce que je vous ai dit. On voit même des procès, des gens sont accusés, meurtre d'un enfant, viol d'un enfant, douleur atroce des parents, de la famille. Et à mort, d'abord une fureur contre ce droit français qui a supprimé la peine de mort, et puis toujours jugé que la sentence est trop faible, demandant la punition au maximum. Enfin, l'idée, l'illusion, bien entendu, je crois, donc, que c'est la punition qui est la chose nécessaire. Et je pense que donc le refus de la vengeance, y compris sous sa forme camouflée et la punition, est un centre vital de l'autocritique, évidemment très difficile à enraciner en chacun d'entre nous. Et si je n'arrive à cette parole qui m'a toujours moi, il était très important, c'est de Robert Montaigne. Robert Montaigne, c'est un garçon qui a fait la résistance, qui a été arrêté, qui a été envoyé dans un camp de concentration, le camp de Rheinwald, dans un commando, hein, qui a failli mourir d'ailleurs, qui a rendu compte que c'était un géant, hein, qui n'avait plus de 30 kilos. De sauver après qu'il a vécu une expérience terrible, une expérience quotidienne avec les SS, les sadistes, les SS, et dans le fond, ce que le sentiment vécu par Robert Montaigne était une sorte de. Il nous est pensé au prince Mouchkine, n'est-ce pas, à l'idiot du livre de Tolstoï. Qui s'appelle Idiot d'ailleurs. Il avait une très grande bonté et il disait les SS veulent nous retrancher de l'humanité, hein, et puis nous résistons, c'est pas pour ça, hein, mais nous savons que eux-mêmes font partie de l'humanité. C'est-à-dire tout ce par quoi se manifeste effectivement le pire de l'humain, c'est retranché. Pourquoi les épithètes de chien, porc, etc. sont retranchés. Ou bien alors l'épithète de traître, retranché de la communauté ennemie de la communauté. Et vous savez, le grand usage du mot traître, dans un pays comme la France, un sujet de traite après la libération. Bon, puis, il y a eu les traîtres, tout dissident économique, sujet traître, bon, etc., etc. L'usage modéré du concept de traite, c'était les notions et les concepts de réjection. Et je pense qu'une des choses terribles, c'est la tendance à transformer chez autrui une erreur en faute morale inexpiable, alors que chez soi le même acte n'est que le résultat d'une erreur. Il y a une sorte sans arrêt, n'est-ce pas, nous utilisons deux poids et deux mesures, pour nous, pour les autres, et pour les autres. Et moi, ça m'a frappé, puisque j'ai écrit mon livre Mes démons, au moment du procès Touvier. Touvier était un chef de la milice de Vichy, qui a pris des actes contre, pas seulement contre les résistants, mais, disons, un massacre d'un certain nombre d'enfants juifs qui étaient protégés, cachés, en savoir. Donc, il y a eu ces meurtres. Or, ce procès a lieu au moment même où un certain Gosper, c'est un Israélien, massacre 29 musulmans qui étaient à Hébron, le tombeau d'Abraham, ancêtre commun. Alors, d'un côté, le meurtre, c'est un peu difficile de considérer l'assassinat de Touvier comme un meurtre, comme un crime contre l'humanité, comme un crime de guerre, et le meurtre de Hussein comme un accident, un acte de folie, de délire, sans conséquence. C'est-à-dire que l'un a tué des enfants juifs, l'autre des musulmans en guerre. Mais quand nous voyons ce qui s'est passé dans l'esprit de Touvier et de Lorsen, dans Chénin et les autres, il y a eu la logique de la bande d'État. Touvier s'est justifié en disant, mais oui, après l'assassinat de Philippe Henriot, parce que Philippe Henriot était un porte-parole, disons, du gouvernement de Vichy et de la collaboration, qui est ce porte-parole faisait des émissions à la radio. C'était une époque où la télévision n'existait pas, les émissions à la radio étaient très importantes. Il faisait donc des émissions contre la résistance, contre De Gaulle, contre et pour la collaboration. Et Philippe Henriot a été tué par un groupe de résistants. Et Touvier dit, ben voilà, puisqu'ils ont tué Philippe Henriot, ben moi j'ai tué. Parce qu'il n'avait aucun rapport. Mais c'est justement la logique de la vendetta. On tue ceux qui font partie du groupe humain, du monde humain des autres. Alors que le chrétien lui-même, c'est pas l'humain obéissé à la logique de la vendetta contre ces musulmans, ces arabes, ces palestiniens, etc. Bon, voilà, donc c'est la réponse. Je veux dire que là, voilà un des aspects fondamentaux, je pense, des dédits. Mais après, on comprend justement à ces problèmes qui sont profondément liés à la politique, à la société, en compte de la difficulté. J'ai personnellement suivi tous les événements de 91 à 95 qui ont marqué une double guerre, une guerre entre Serbie et Croatie d'un côté, comme une guerre contre la Bosnie menée par la Serbie. Et guerre fratricide, puisque c'était des gens qui parlaient la même langue, qui avaient acquis nationalités qui se sont fait derrière. Bon, dans lequel il y a des actes horribles, mais ce qui était terrible, c'était les processus d'auto-justification de chaque camp en mettant en relief des actes atroces commis par l'autre. D'ailleurs, la guerre avait un caractère atroce dès le début, à partir du moment où la télévision serbe a montré des témoignages de personnes qui étaient enfants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il témoignait comment les Croates, parce que les Croates, il y avait un régime croate, tout Tachi, qui a collaboré avec Hitler, comme un anglais ou un croate, avait émasculé son père, violé sa mère, commis des choses abominables. Au même moment, la télévision croate montrait comment des Serbes avaient commis les mêmes actes. Et tout ceci a transformé un passé au présent, peut-être ressuscité des haines et des rancunes qui s'étaient éteintes avec le temps, et créer un climat de grandeur, d'incompréhension généralisée. Et j'étais à Belgrade la semaine dernière, et évidemment, il m'intéressait de savoir comment les esprits avaient évolué. Et rencontrant des personnages qui restent du côté complexe, estimable, je voyais qu'ils étaient encore dans le circuit de l'auto-justification et du report sur autrui, de toutes les fautes, de toutes les fautes. Un académicien qui serbe, qui lui avait été de Sarajevo, vous savez que Sarajevo était cette capitale de la Bosnie-Herzégovine, où ils vivaient ensemble, musulmans, pacifiques, serbes, croates, musulmans. Bon, cet académicien a été arrêté par des milices musulmanes à Sarajevo, de la guerre. Il a été battu, et enfin il a réussi à s'enfuir, mais allez ensemble. Et alors, il me montre encore les traces des coups qu'il avait reçus, des blessures qu'il avait reçues, et me parlait comme disant, voilà ce que je fais. J'ai dit, écoutez, je respecte votre témoignage, enfin, vous savez, j'en ai d'autres, c'est pas tout à fait dans le sens contraire. Et de plus, ma propre fille avait été dans des camps où on avait recueilli des femmes qui avaient été violées, des femmes croates. J'ai demandé leur bon, je pouvais leur donner, parce qu'ils me disaient, vous-même, vous êtes un témoin extérieur, vous voyez les choses de loin, non, mais je ne sais pas du tout, je connais très concrètement les choses. Enfin bref, discussion. Mais je voyais des limites quand même, on était quand même 7 ans après la fin de cette guerre atroce, et les choses commençaient à se calmer, hein, les passions se calmaient, et les racines de la compréhension restaient, notamment dans cette génération. Alors, évidemment, il y a un problème de génération, parce que j'ai vu un jeune ministre du gouvernement actuel, c'est-à-dire un exil à l'étranger, qui lui en a des limites dans cette mentalité. Mais c'est pour vous dire à quel point il est difficile de quitter cette structure fondamentale de la compréhension, et pourtant à quel point il est nécessaire de quitter cette structure. Bon, écoutez, on peut s'arrêter là pour pouvoir laisser un peu le temps de la discussion et de la conversation.
Ça vient plus tard peut-être, mais j'aimerais quand même poser la question maintenant. C'est sur les limites. Les limites, quelles sont les limites de cette compréhension ou cette éthique de la compréhension? Quand est-ce qu'on peut dire on ne doit jamais comprendre ça? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est une grande question. Et puis, une autre question encore. J'ai vu, il y a 3-4 semaines, on a passé pour la première fois ici, à Barcelone, le film Shoah. On ne l'avait jamais vu, hein, Claude Lanzmann, il était là. Et puis, un des derniers films, qui est une partie de la Shoah, c'est un interview, un des témoins, et je ne me souviens pas le titre, c'est dans un camp en Pologne. Et alors, le témoin, il raconte, il parle de l'expérience au moment qu'il a tué un des Allemands de SS. Non, le moment, il était un jeune, 16 ans, et toute l'interview, c'est pour raconter comment il a tué cet homme, non? Et comment ils avaient organisé tous, et ils se sont sortis des camps. Ils ont sauvé sa vie. Alors, c'est un cas exceptionnel, non? Et ce qui est frappant dans le film, c'est que là, on ne voit pas tous ces sentiments de... Comment dire? Il y a, en aucun moment, on voit dans cette personne le ressentiment ou la je sais pas comment dire. Il n'y a pas de vengeance, ou il n'y a même pas de il n'arrive pas à voir son acte comme un acte on voit pas le mal dans son acte. Je sais pas comment dire, non. C'est un acte terrible parce que c'est un assassin. Il y avait 16 ans. C'est un acte qui est vécu comme un héros. C'est ça. C'est plutôt été comme un acte d'héroïcité. Vous voyez, il a sauvé pas seulement sa propre vie, la vie de tous ceux qui étaient là. Non? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce type de questions? Bon, je ne sais pas.
Oui, alors, bon, tout à l'heure, tout d'abord, on sera comprendre qu'il n'est pas excusé et n'est pas évité non plus le jugement moral. Et puis d'autre part, l'empathie et la sympathie s'arrêtent, n'est-ce pas, dès qu'apparaissent des actes de cruauté et de violence. Bien, je veux dire que la compréhension, donc combinée toujours avec l'explication, hein, c'est-à-dire que la compréhension, c'est comment. Il y a un autre film, enfin un film assez. Ce feuilleton américain qui s'appelait Holocaust, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui sont passés dans beaucoup de télévisions. Enfin, c'est en gros, c'est l'histoire d'une famille juive en Allemagne à partir des années 30 et à l'arrivée des terres au pouvoir. Enfin, un des cas intéressants, c'est un garçon assez quelconque qui serait devenu un tout petit fonctionnaire si l'Allemagne n'avait pas connu le nazisme, et qui, dans ce film romancé, romanesque, devient un des grands bourreaux, n'est-ce pas, du système concentrationnaire nazi. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut comprendre, c'est comme le destin, l'histoire, les dérives historiques, n'est-ce pas, même transformer les gens, faire que le pire qui sont dans certaines personnes ressort, ce pire qui ne serait jamais ressorti. Et il y a eu des actes partout, il y a eu un déchaînement de torture, la torture que pratiquaient les Français pendant la guerre d'Algérie, n'est-ce pas, voyons des gens qui auraient pu être des gens tout à fait normaux, entre guillemets, n'est-ce pas, devenir torturer et trouver des plaisirs. Bon, ça c'est une chose. Il y a, disons, ce que disait Anna Arendt aussi quand elle a été au procès d'Eichmann, n'est-ce pas. Anna Arendt, n'est-ce pas, vous voyez dans Eichmann, qui joue un rôle central dans l'organisation de l'extermination, même, elle a vu un être absolument médiocre, n'est-ce pas. C'est-à-dire, c'est la médiocrité humaine qui, au sein d'une machine, peut révéler quelque chose d'atroce. Et le grand problème, c'est effectivement de voir comme une machine à tuer, même cette machine à tuer nazi, c'est pas la chose qui est encore totalement claire, il y a encore un débat entre historiens pour savoir quelle est la part de la volonté explicite de Hitler et aux dirigeants et de la machine bureaucratico-meurtrière le rôle aussi, je dirais, de l'histoire. Parce que jusqu'en 1900, jusqu'au début 1942, la solution, ce qu'on appelait la solution finale du problème juif en Europe, qui était l'idée nazie, consistait à une déportation massive des juifs hors d'Europe. Et cette solution finale, qui était la déportation, s'est transformée en solution d'extermination. Pourquoi? Comment? Il y a eu des livres écrits là-dessus. Et un historien suisse fait cette hypothèse. Enfin, l'hypothèse est la suivante. C'est qu'au début, 1942, c'est enfin, la première défaite hitlérienne, et c'est la première fois que Hitler sent qu'il peut perdre la guerre. Pourquoi? Parce que Moscou a résisté fin au cours de l'automne 1941, grâce à un hiver précoce, grâce à une série de facteurs, et qu'il n'a pas pu prendre Moscou, que même il y a eu une autre offensive russe au début 1942 qui a rejeté quelques centaines de kilomètres allemand, et bien que l'armée allemande reste très puissante, bien qu'Hitler ait pu déterminer une nouvelle offensive au cours du printemps 1942, laquelle qu'il a amené jusqu'à Stalingrad, la guerre en Libye, vous savez pas, pour la première fois, Hitler pense que la guerre est perdue. Alors, est-ce qu'il décide clairement la guerre, vu que dans l'idéologie d'Hitler, le rôle du complot juif mondial, et notamment de la menace que les juifs dégénérés faisaient passer sur la race aryenne, c'est une série de mythologies, de mythes, on jouait à dire, ben, si c'est comme ça, ben, il ne faut pas que les juifs aient la victoire, ou voient la victoire. Toujours est-il qu'il y a, bon, nous devons expliquer, comprendre l'histoire. Bon, mais en ce qui concerne ces bourreaux, l'acte bourde est ni excusable, ni mérite même pour la générale. Ce que je veux dire aussi, c'est que des êtres qui, dans certaines périodes d'hystérie collective ou personnelle, ont accompli des actes ignobles, peuvent se transformer une fois ces actes accomplis. Et puis, c'était le cas de, effectivement de Hitler. Mais il y a eu aussi l'Union soviétique, du reste de la répression, donc il y a eu beaucoup plus de morts dans les camps de concentration qu'on a fait Goulag à cause de la durée du régime stalinien. Mais l'association des victimes du stalinisme qui s'est constituée, s'est appelée Mémorial, a demandé que la vérité soit faite sur tout ce qui s'est passé, mais n'a pas demandé le châtiment. Et d'ailleurs, c'est un peu, disons, c'est Nelson Mandela, voilà. Il a dit, oublier, non, pardonner, oui. C'est-à-dire que, là aussi, quand on pense à tous les actes abjects qui ont été commis contre la population noire en Afrique du Sud, c'est logique, naturel, qui est repoussé, d'ailleurs, il y a en jugement. Mais cette logique qui consiste à mettre en jugement était une logique infernale de la désintégration même de l'Afrique du Sud. Bon. Vous avez aussi Adam Michnik qui a passé des années en prison sur l'époque stalinienne en Pologne, en Tchernobylski. Il a dit à peu près la même chose. Il y a un moment donné, on arrête le cycle de la punition et de la vengeance. C'est un problème toujours très, très difficile. Mais, bon, imaginez que la paix aurait pu être conclue à un moment donné entre Rabin, enfin, qui a été assassiné par un fanatique juif, et Arafat. Mais cette paix n'était possible que dans un minimum de compréhension réciproque, dans un minimum de pardon réciproque, car les crimes abominables avaient été commis des deux côtés. C'est-à-dire que le grand problème, je répète, c'est à comment arrêter le cycle, stagnant le cycle de la vendetta, ce cycle qui déferle sur nous partout. C'est ça, le grand problème. Alors que les choses soient dites, révélées, remémorées, très bien. qu'on voit des cas monstrueux, c'est évident, mais je dirais que on devient monstre. Ça, dans le problème, c'est-à-dire que tout être a des possibilités multiples. Bon, il y en a qui ont des possibilités meilleures que d'autres. Par exemple, je parlais de mon ami Robert Montaigne, c'était un être très bon. D'autres qui sont potentiellement mauvais, méchants, vindicatifs. Et je pense que l'éthique, c'est une tentative pour développer le meilleur de l'être humain. Voilà. Alors il faut essayer de pousser la compréhension au maximum, vous devez tout pousser. C'est-à-dire à un moment donné, vous perdez l'élément affectif, je dirais des sympathies. Mais vous restez quand même dans le système de... Il y a deux sens, si vous voulez, dans votre compréhension. Il y a la compréhension générale et la compréhension humaine. Bon, la compréhension, le mot n'est pas très clair dans son origine, compréhender, c'est prendre ensemble. C'est l'ensemble des facteurs. C'est un mot typique de complexité, on essaie de faire ensemble. Alors, ce mot de compréhension, dans ce sens... qui combine avec l'explication historique, enfin, ça il faut le pousser jusqu'au bout. Alors que l'attitude de guerre, c'est de ne pas de refuser cette compréhension. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si vous l'avez cité ici autrefois, mais il y avait l'écrivain et journaliste Ilia Aimbourg, écrivait. Je ne connais qu'une sorte de bon Allemand, c'est un Allemand mort. Pourquoi? Parce qu'il avait identifié tous les Allemands nazis et tous les nazis avec les criminels. Bon, c'est une phrase, d'ailleurs, il faut dire qu'à cette époque-là, Staline a fait un article disant « Le camarade Ehrenbourg exagère enfin, ». C'est-à-dire, un peu de modération. Et pourtant, Staline n'était pas particulièrement doux. Alors, il y a quelque chose, c'est-à-dire... comprendre en cas de guerre, on considère que tout ce qui est mauvais vient de l'essence de l'être même de l'ennemi. Et puis quand on a ce détachement, très bon sens, on n'est pas comme ça, avec tous les Allemands, etc. Bon. Et je pense que c'est cet effort qui me semble nécessaire. Considérer par exemple l'Allemagne actuelle comme la même que l'Allemagne. Et puis, il faut dire que la compréhension, là aussi, prenons le cas de Lanzmann, son extrême, je dirais, sensibilité, justement, au sort de ce qui s'est passé à Auschwitz, l'a conduit à une grande insensibilité par rapport aux actes de ce que Tsahal, l'armée d'Israël, a fait sur des populations civiles palestiniennes. Il a écrit récemment un article dans Le Monde justifiant effectivement tout ça. Je veux dire que là aussi, je pense que moi je suis dans le fait que c'est aussi un problème politique, c'est que je dis on ne peut pas avoir deux poids et deux mesures selon les partenaires, les protagonistes et les individus. Il faut avoir le même principe voilà, pour tous. Et je répète la compréhension historique, sociale, psychologique. Mais la vraie compréhension humaine qui nécessite l'empathie, il est évident que l'empathie, à un moment donné, s'arrête. Mais ça ne veut pas dire, et ça j'en parlerai donc la prochaine fois, ça ne veut pas dire pour autant que le problème du pardon et de la magnanimité ne se pose pas. Et pas seulement le pardon pour un coup positif, mais l'arrêt du système de vengeance. L'arrêt du châtiment de la punition.
Très bien. C'est vrai que si on peut parler de l'expérience à propos de cette question de la compréhension, on va voir dans les prochains jours, bien sûr. Ah oui, je dis que je vais faire un commentaire à propos de cette question de la compréhension du point de vue de l'expérience féminine. Disons, dans les prochains jours, on va voir la relation entre l'auto-éthique et l'éthique sociale, bien sûr, et l'éthique anthropologique. Mais je crois que pour ça, pour voir cette relation, c'est intéressant de voir qu'il a été historiquement et qu'il est dans ce moment l'expérience de femme. Disons que nous ont élevés justement pour travailler dans cet terrain de la compréhension. Ça veut dire l'émotivité, ça veut dire la relation entre de proches, entre des personnes qui est marquée par l'amour, disons, finalement. Nous sommes spécialistes, disons, par élevage, dans cet terrain de la proximité et de la relation de personne à personne. Mais on nous a dit que ça n'a pas rien à voir avec l'éthique, parce que l'éthique, c'est une chose rationnelle, objective, en dehors de ça. Disons, on n'a jamais reconnu un papier éthique des relations, disons, émotives. C'est très simple, mais vous comprenez ce que je veux dire, je crois. Alors, ce qui s'est passé, nous avons resté comme femmes, comme rôle féminin, en dehors des grandes questions éthiques. Et nous avons géré la vie quotidienne avec une façon, je disais, de connaissances pratiques. Mais pour l'instant, que les femmes nous jouent un double, triple, je ne sais pas quoi, rôle, nous devons faire des connexions très difficiles entre cette question de l'empathie, la compréhension, l'éthique de proche et l'éthique en gros, disons sociale, rationnelle, ça veut dire dans le monde professionnel, ça veut dire dans le monde politique et tout ça. Alors je crois qu'on peut apprendre quelque chose d'observer les femmes et l'expérience actuelle des femmes avec les bagages passés de notre rôle des mères, d'épouses et tout ça. Alors je crois, c'est évident, mais je crois qu'il faut faire cette réflexion. Il faut la faire. Pas c'est tout, c'est un petit meeting, mais je crois qu'il faut. Merci.
Je crois que la partie de la population qui a subi l'injustice, le manque d'estime, la sous-évaluation, le mépris d'autrui, est condamnée à se montrer plus intelligente que les gens qui les méprisent, qui les détestent, etc. Moi, je crois que, si vous voulez, il y a quelque chose de très important. Par exemple, de comprendre en fonction de quelle structure sociale, historique et autre, on est arrivé à une situation où, par exemple, le statut de la femme est tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il était hier matin, etc. Je veux dire que c'est la partie qui a subi l'injustice qui doit avoir plus de sentiments, plus d'intelligence, en fait, que la partie qui fait subir l'injustice. Je ne sais pas si j'avais compris.
Bon, dans cette version,
la compañera habla de algo que, claro, yo como feminista teórica. Sí, voy. Digo que la compañera habla de cosas que yo como feminista teórica conozco. Efectivamente, no es que quiera. Vamos, voy a decir lo que yo comprendo de lo que tú has dicho. Escindidos los valores masculinos y femeninos y los roles masculinos y femeninos, ha habido una serie de roles típicos para las mujeres que pasaban por todos los cuidados. Los cuidados a los niños, a los mayores, de la casa, etc. De ahí ha surgido lo que las feministas llaman la ética del cuidado, que lo que se plantea es a que se asuman esos valores que son los de mirar, los de dar y los de ser generosos, que esos valores sean asumidos por la sociedad en general a la hora de que se integren las mujeres, no desintegrándose, sino sumando los valores estos que pueden ser muy positivos para una reconstrucción de una sociedad en base a otros valores. Esto yo fue una parte de mi exposición cuando nos vimos en Barcelona hablando de pensar las complejidades del sur, los valores que han asumido las feministas dentro de toda la variedad que hay serían esos: el valor de la paz, el valor del respeto, el valor de la relacionalidad Y claro que son valores muy interesantes para reconstruir una sociedad con eso. Dicho esto, voy a decir lo otro que tenía pensado, Yo paso a la segunda. Cuando la anterior compañera también tú, claro, has hablado de aquella persona que cree que está siendo un héroe, ¿no? Haciendo una acción. Yo he pensado en las contradicciones, otra vez, en toda la dialógica que se monta entre la ética de la comprensión y la ética de aquel o aquella que siente que está haciendo la justicia. La justicia, la ética de la justicia no es una ética muy comprensiva que parezca, porque parece ser que posee la verdad, o al menos ha sido aplicada. Y todavía voy a complejizarlo más. He pensado en las bases antropo-sociosimbólicas de las éticas del perdón y de la venganza. ¿Por qué? Y las diferencias que existen entre pueblos y sociedades diferentes. En las sociedades mediterráneas, estas del sur, sabes que son sociedades del honor y de la venganza. Hay que vengar las violaciones, los asesinatos, que además normalmente es vengarlos volviendo a matar. Y en otras sociedades quizás hay más comprensión, quizás haya otras bases geográfico o lo que sea, que nos hace tener otro tipo de reacciones, porque yo voy a lo bio, geográfico, antropo, simbólico y de todo tipo. Pero pensaba las dificultades que hay según las sociedades y las personas, digamos, tener una actitud de comprensión hacia quien te ha hecho algo. Y ya no en el plano político, sino en el plano ya más individual, que es el que yo estoy hablando. Una persona que se mata a un hijo tuyo, o no sé, como cercano, no hace falta irnos a... Bueno, a claves biológicas fuertes todavía sería peor, quiero decir, a claves familiares fuertes. Bueno, pues vamos a ver.
Enfin, cette idée que je voudrais exprimer en disant que ce que, enfin, avant d'en venir à ce que dit Anna sur la justice, je veux dire, à ceux qui ont souffert de la justice, de pouvoir être meilleurs que de ceux qui l'ont fait subir. Il y a une chose dans Marx, dont l'aspect éthique sous-jacent est sous-estimé. Bon, que pensait Marx? Marx pensait que, donc, pourquoi, selon Marx, c'est le prolétariat qui devait instaurer la société sans classe, c'est-à-dire la société juste, humaine. C'est parce que il considérait que l'expérience subie par les prolétaires, l'expérience de la souffrance, de l'exploitation, du déni, était l'expérience qui leur pouvait donner la capacité d'arriver à une vision universelle, c'est-à-dire de refuser pour tous le déni, la souffrance, l'injustice et l'exploitation. C'est-à-dire cette expérience de celui qui a subi le tort et l'injustice qui va être rédempteur. Alors, c'est une idée très belle. Malheureusement, nous n'avons pas pu vérifier son application. D'abord parce que nulle part le prolétariat n'a pris le pouvoir, même pendant la révolution, que ce soit bolchevique, chinoise ou castriste. Et d'autre part, aujourd'hui, ce qu'on appelle le prolétariat industriel, qui, selon Marx, devait devenir la classe la plus importante de la société, aujourd'hui serait ainsi et bon son compte. Mais l'idée intéressante que moi je reprends, mais en effet, le devoir le plus grand vient dans le fond de ceux qui souffrent de la part. Bon, alors je dis ça aussi, me plaçant, vu mes origines juives, pas de, de façon. Je sais pas, personnellement, j'ai pas beaucoup souffert, mais je veux dire que je sais ce que c'est que la souffrance et l'humiliation subies au cours des siècles, de mépris et de déni. Mais, bien entendu, quand on est. Mais si je fais de l'obsession là-dessus, mais je serai avec bien des choses. Par exemple, je ne lirai pas Voltaire, parce que Voltaire a écrit des choses très violentes contre les Juifs. Ou bien je considérerai Louis-Ferdinand Céline, par ailleurs, un auteur qui a un livre très important, qui s'appelle Voyage au bout de la nuit, qui est un chef-d'œuvre d'humanité aussi, mais en qui s'est développé, dans l'esprit duquel s'est développé une sorte de cancer, une sorte d'obsession qui juive, je réduirai toute son œuvre à ceci. Moi, ce que je dis, je reviens à ce que j'ai dit, lutter contre la réduction. Bon, lutter contre la réduction. La réduction, disons, à l'oppression de ce que furent les oppresseurs, des Polacs, les Indiens d'Amérique, du Nord, du Sud, les Noirs qui ont subi le pire esclavage, tout ceci, etc., emportés par l'idée de punition, de vengeance. Par contre, il y a des idées très justes de réparation. Quand dans des conférences internationales, les Africains demandent des réparations pour tous les dommages subis, bien subis, un siècle par l'esclavage, et vu l'état d'inégalité du monde, ça me semble tout à fait légitime. Mais je crois que, disons, vous avez raison de poser la question pour les limites. C'est vrai, il y a des limites. Mais ces limites qui ne sont pas tracées d'avance, pour voir cas par cas. Et alors, comme ça, ce qu'a dit Alain, c'est très juste. Il y a une dialogique entre la logique de la compréhension, la logique de la justice. Parce que, même si on applique la justice dans le sens hégarien, c'est-à-dire de protéger la société, il y a des actes qui, par la privation de liberté, je suppose, sont de caractère punitif. Et même, disons, et par là même, il y a un talion sous-jacent, n'est-ce pas ? Devoir payer. Et d'ailleurs, de payer est une idée très forte, très très forte, qui montre que c'est pour ça que ce que je dis comporte sa part de complexité contradictoire, puisque je dis qu'il faut. Je suis contre l'idée, dans le fond, de talion. Et seulement alors, oui, ce mot de payer lui-même devient assez intéressant parce que dans l'histoire, et notamment par exemple dans l'histoire de l'Europe, où la règle des anciennes sociétés tribales, n'est-ce pas, notamment dans le droit germanique et le talion, il y en a 100%, œil pour œil, par exemple, alors on a trouvé à un moment donné le paiement. On appelle en droit le bergen, n'est-ce pas ? On paye par de l'argent, causer un tort au prix, c'est de payer. Hein, c'est-à-dire une façon de limiter le talion, non pas un acte analogue, mais quand même à quelque chose qui fait payer au prix de l'acte mauvais qu'il a fait. Bon, c'est vrai que nous avons quand même cette idée sous-jacente, mais qui en plus, ça part libératoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été emprisonné, au bout d'un certain temps, peut dire j'ai payé. Non, c'est moi. Donc, bon, cela étant dit, c'est vrai, nous devons faire toujours dialogiser la compréhension et la justice. Mais la justice est une institution sociale pour laquelle, évidemment, nous pouvons, en tant qu'individu, militer. La compréhension est une chose qui part de soi et de l'individu. Donc c'est la compréhension, enfin, je dirais que la compréhension, si mon diagnostic est juste, la compréhension c'est ce qu'il y a de sous-développé et dans tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, si vous me dites, vous prenez des cas extrêmes, d'ignominie, parlant des limites, c'est vrai, mais ces cas extrêmes d'ignominie, nous ont montré qu'il y a des zones très vastes où il n'y a pas de compréhension et nous devons pratiquer la compréhension. D'autres paroles.
De façon un petit peu caricaturale, exprimer une certaine tristesse quand effectivement j'entends évoquer le problème féminin récurrent, millénaire, et comme réponse la situation des Indiens, des Noirs et des Juifs. Je voudrais, moi ce qui m'intéresserait, c'est de débattre de la situation. Je comprends les Noirs, les Juifs, les Indiens et les autres, mais le problème de la femme est toujours éludé. Il est en cours. Et ça m'inspire de la tristesse. Vraiment, je le dis avec le sourire, ça m'inspire de la tristesse. Parce qu'il y a vraiment des problèmes aigus qui, personnellement, me font souffrir physiquement de savoir que c'est, et en plus, ces problèmes sont éludés. J'ai du mal à comprendre. Ou alors, ça suggère un sourire. Qui sont évoqués parce qu'on est une féministe, non, on est humaniste. Mais voilà, je me suis soulagée, je pense que ça nous permettra de continuer. Je veux simplement reprendre un point qui a été évoqué par Edgar Morin, qui est celui de la clôture à autrui. Et alors, comme on a pour dans cette. Je dirais pour culture d'élargir notre réflexion de l'anthropologie au biologique, du biologique au sociologique. Je vais apporter mon expérience de la clôture et ce qu'elle peut, en quoi elle peut être utile si effectivement on en comprend certaines expressions dans le problème de l'éthique. Alors, ce problème de l'apparition de l'organisation vivante, pour faire court, je vais dire l'apparition de la vie. Il y a plusieurs thèses, les thèses gradualistes, où les choses sont passées petit à petit. Et il y en a une qui est extrêmement intéressante, qui est la thèse de Stuart Kaufman, qui repose sur la clôture catalytique. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que peu importe comment s'est réalisée la clôture, si c'est dans une couche lipidique, si c'est sur une surface, ici et sur ci. Toujours est-il que des molécules qui étaient purement chimiques ont pu, du fait de leur proximité, développer une organisation, c'est-à-dire que l'une d'entre elles intervenant dans la synthèse de l'autre. Et donc, cette clôture qui n'est pas une fermeture, puisqu'il y a des échanges de matière avec l'extérieur, cette clôture désigne en fait une organisation. Et cette organisation, elle va s'autoproduire, elle va se développer. Et ce qui évoque pour moi ce que j'ai entendu là, pour ce qui concerne la clôture en autrui, c'est peut-être une façon, effectivement, premièrement, de lier cette clôture à la problématique d'autocritique, hein. Mais surtout, pour moi, ce que ça suggère, c'est une préoccupation de comprendre ce qu'est cette clôture, la mienne par rapport à autrui, et celle des autres par rapport à moi ou par rapport à d'autres. Parce que la clôture, ça ne veut pas dire le vide. Si effectivement on se fonde sur le modèle de Stuart Kaufman sur l'émergence du vivant, au contraire, c'est extrêmement productif. Et alors, c'est effectivement comprendre les règles de ces univers clos, qui sont en fait des univers très dynamiques. Alors du coup, je me dis, cette notion de justice, dans le fond, c'est comme le concept de vie, ça n'a pas de réalité ontologique. Hein. La notion de justice, elle existe aussi dans quelque chose qui serait une clôture, et peut-être qu'on peut considérer différentes logiques, différentes organisations, du coup, avec leur propre mode de fonctionnement, leur propre justice aussi. Et je me dis qu'effectivement, si du coup j'essaie de comprendre en termes non pas d'isolement, mais en termes d'organisation extrêmement dynamique des différentes lignées, je vais y trouver peut-être des raisons pour comprendre. Hein. C'est-à-dire déjà réaliser des organisations différentes, avec des finalités différentes. Et une de ces finalités, ça peut être le développement jusqu'à la guerre. Et effectivement, trouver les moyens et de comprendre et de déjouer. Et je vais essayer d'appliquer ça au problème féminin, pour voir effectivement comment s'établit la clôture par rapport aux femmes, parce qu'on est dans une société, alors ça c'est bon, des raisonnements de café de commerce, mais enfin je pense que ça peut être une base qui a été conçue pour le développement, pour des prérogatives masculines, pour asseoir une autorité masculine. Et donc, effectivement, ça impose de mettre à l'extérieur de cette organisation, de cette logique, bon, des éléments qui en sont pas les composants. Voilà. Donc, j'étais tout à fait passionnée par cette notion de clôture qui a référé pour moi à quelque chose d'extrêmement dynamique, extrêmement organisé. Et puis, quand on voit ce qu'a pu donner ce concept de clôture enzymatique avec la diversité et des formes de vie sur la Terre, je pense que c'est un concept qui est important et puis qui n'est pas effectivement sans danger si on n'en comprend pas ce qu'il y a derrière en termes d'organisation et de dynamique.
Merci. Bon, bah, écoutez, tout d'abord, je n'ai pas voulu du tout noyer le problème féminin dans les persécutions, la place de moi, etc. Je pensais beaucoup plus au rappel des camps de concentration nazis, au fait que j'évoquais les camps de concentration soviétiques, à toute cette sorte d'injustice que subit tout au long de l'histoire par des formes très violentes, que ce soit depuis la ghettoisation, etc. Et donc à ce moment-là, je ne pensais pas au problème féminin actuel. Même si je n'ai pas parlé là-dessus après ce que vous avez dit, ou ce qu'elle a dit, parce que dans le fond, j'étais d'accord. Quand les mouvements féministes ont identifié la situation des femmes à la situation justement de populations ou d'ethnies qui ont été victimes par une autre ethnie, par une autre nation, discrimination, de persécution, etc. La situation est plus complexe puisque nous sommes dans la même population et que effectivement les rapports hommes-femmes ne sont pas réductibles aux autres rapports de subordination ou d'exploitation. Ils ne sont pas réductibles, mais bon, on peut trouver certaines analogies, certaines équivalences pour les expliquer. Bon, là aussi. Alors, maintenant, en ce qui concerne la clôture, oui, moi je parlais de clôture psychologique, la clôture psychologique d'un groupe, c'est-à-dire une clôture hermétique, et vous avez raison, alors peut-être de souligner l'absence de complexification dans ce mot clôture que j'ai envoyé à ce moment-là. À ce moment-là, je crois que j'étais légitimé. Non. Ce que je prends, et d'ailleurs, ce que j'ai écrit en témoigne, puisque j'ai défini, l'être vivant comme un système à la fois ouvert et fermé. Hein. Et j'ai même poussé la logique récursive à dire, il est ouvert parce qu'il est fermé, il est fermé parce qu'il est ouvert. Pourquoi ? Bon. D'abord, disons, s'il y a une membrane, n'est-ce pas, qui fait une clôture, une cellule par exemple, nous avons la peau, n'est-ce pas, qui est une clôture. Hein. C'est effectivement, c'est comme toute frontière. Une frontière, c'est ce qui ferme et c'est ce qui ouvre, c'est ce qui filtre, hein, c'est ce qui est relié, c'est ce qui laisse passer. Alors, Alors justement, dans le cas de la culture psychique de groupes fanatiques, même d'une structure mentale fanatique, et je dirais que la culture est fermée. D'ailleurs, c'est un peu la différence que j'ai faite aussi en opposant théorie à doctrine. Bon, quelle est la différence entre théorie et doctrine? Une théorie, c'est un ensemble construit, n'est-ce pas, d'idées, et qui du reste, de par lui-même, essaie de se sauvegarder en résistant aux arguments contraires. Mais bien entendu, si une théorie trouve des arguments contraires valables, elle essaye de les intégrer ou de se transformer. Alors qu'une doctrine, elle, peut être constituée des mêmes éléments que la théorie, mais elle est blindée, elle est fermée à tout argument et à toute réfutation. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une théorie est scientifique, parce qu'elle est réfutable, éventuellement, donc capable de se briser. Et une doctrine, on n'est pas scientifique, parce qu'elle résiste à la critique et à l'expérience. Donc, et je dirais que le système vivant est à la fois fermé, ou même n'importe une culture, disons. Elle est fermée pour sauvegarder son identité, les bases mêmes. Elle est ouverte pour assimiler des éléments venus de l'extérieur. Alors, tout ceci pour dire que, personnellement, je dialectise ouverture et fermeture. Il n'y a pas de clôture absolue, d'ailleurs, c'est votre exemple le démontre, hein, pas de clôture absolue, mais, et que le mot de frontière me semble bien, parce qu'il rend bien compte à la fois de ce qui ferme et de ce qui ouvre, et qui est le même système. Alors, là aussi, je reviens encore une fois, c'est la compréhension. Hein. Elle doit se battre sur le front de l'ouverture, et paradoxalement, de l'ouverture à ce qui est fermé. Voilà le problème. Et comment ouvrir ce qui est fermé? Et là aussi, il y a très grande difficulté, mais d'ailleurs, on le voit aussi dans des... Vous savez, il y a des expériences, il y a des gens, des individus qui décident de s'occuper de groupes d'enfants délinquants. Et ils vont avoir une très grande difficulté à s'introduire parmi eux, à se faire accepter, à se faire reconnaître, à se faire estimer, etc. Puis il y a tout un processus, et le processus qui sera celui de l'ouverture. L'ouverture à lui, rééducateur de ceux qui se refusaient. Etc. Et lui, il va de plus en plus s'ouvrir à eux. Donc, surtout pour l'enfance, pour l'adolescence, peut-être aussi parfois pour les adultes, parce que c'est des mutations de personnalité en prison, il y a la question, comment transformer une structure close, c'est-à-dire la clôture, la marque psychique de la clôture, c'est l'auto-justification permanente. Et c'est le report sur autrui du mal. Enfin, c'est facile à repérer et à connaître. Il faut créer, il se crée une ouverture dans l'auto-justification. Et plus l'auto-justification est permanente et continue, plus elle sera difficile à abolir. Parce que celui qui s'auto-justifie, voyant qu'il avait tort de s'auto-justifier dans ce qu'il faisait de mal, devra reconnaître qu'il faisait mal. Et alors, la reconnaissance de ce qu'il fait mal ne peut sortir qu'à l'occasion de cette autre opération de l'esprit, qu'on peut s'appeler le repentir et le regret. Est-ce que l'éthique ne consiste pas à pouvoir aider à susciter le repentir? Alors évidemment, il y a de la passion grossière, c'est-à-dire... Repends-toi, sinon tu seras privé de dessert au cinéma. Enfin bon, ça soit comme ça. Mais, et je dirais que je pense que c'est une voie très difficile et très banale à la fois, parce que bon, toutes ces idées-là, nous l'avons dans le capital culturel que nous avons reçu, surtout dans une civilisation ou quand même le message, disons, de Jésus, n'est-ce pas, est un message, disons, apparemment au centre, n'est-ce pas, de la culture, c'est-à-dire là, c'est pardonnez-leur, etc. C'est, alors, ça, c'est le dernier pardon, c'est sur la croix, c'est assez gros. Il y a aussi d'autres pardons que celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre, etc. Bon, ça fait partie. Mais ce capital culturel est tout à fait. Manque de fécondité, il n'est pas régénéré, y compris dans les églises, bien entendu. Hein, je ne parle pas de. Parce qu'il fait partie de la culture de la société, même déchristianisée. Mais il va. Et peut-être que dans le fond, c'est ce capital éthique qu'il faut essayer de régénérer. Mais moi, je pensais, j'ai cru, je crois toujours d'ailleurs, que le chemin de la compréhension, c'est le bon chemin. Que c'est un chemin qui va dans plusieurs directions. C'est un chemin qui, dans le fond, encore, je reviens à ce que j'ai dit au début. Comment peut-on s'imaginer améliorer les relations humaines, relations qui deviennent, je répète, marquées par un accroissement d'incompréhension? Comment ne pas le faire si on n'essaye pas de pratiquer la compréhension? Et tous les processus psychiques, intellectuels, cognitifs, que ce soit, c'est ça le noyau. Alors bon, on peut poser le problème des limites, c'est vrai. On peut discuter des problèmes des limites, notamment par rapport aux limites de justice, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, on verra ça peut-être la prochaine fois. Hein? Merci de votre attention.